Gustave le Rouge, le sous-marin Jules Verne. Première partie, un drame de la haine. Dans la chambrette, simplement meublée d'une table, d'un lit et de deux chaises, qu'il occupait au cinquième étage d'une maison de la Canebière à Marseille, l'ingénieur Goël Mordax était en train de mettre au net une épure des plus compliquées lorsqu'on frappa timidement à sa porte. « Oh, diable raseur » s'écria-t-il, « il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre !» Et tout en maugréant, Goël l'avait ouvert. Sa moue rechignée eut vite fait de se transformer en un sympathique sourire à l'aspect du visiteur inattendu. « Oh, comment c'est toi, mon vieux Lepic » dit-il. « Oh bien, au moins 3 semaines que l'on ne t'a vu. » « Au moins, si tu m'apportais des nouvelles de notre folle inconnue, belle inconnue. »« Oh, oh !» s'écria le nouveau venu en souriant. « Bon, il s'agit bien d'elle et de son automobile endiablée. Non, j'aime mieux que cela à t'annoncer. »« N'aurais-tu trouvé quelques nouvelles variétés de lézards ?» répliqua l'ingénieur. « À propos, comment va ta ménagerie ?»« Bon, très bien, mais il n'est pas question de cela. T'as donc pas lu les journaux ?» Mais tu sais bien que je les lis jamais. Ben, c'est un tort. Sans cela, tu ne serais pas là, tranquillement, assis devant ta table. Ou plutôt aussi, tu y serais. Allez, voyons, explique-toi, cesse de parler par énigme. Ben, lis toi-même, dit Lepic en tendant un journal à son ami. Lis et réjouis-toi. Le jeune ingénieur prit la feuille et la déplia négligemment. Puis il poussa un cri de surprise et s'absorba dans sa lecture. Pendant ce temps, M. Lepic se débarrassait d'une énorme boîte verte de botaniste, tirait de ses poches une série de marteaux et de ciseaux de différentes formes, déposait dans un coin un filet à papillons et s'asseyait enfin, après avoir soigneusement essuyé ses lunettes avec son mouchoir de poche. Monsieur Lepic était un garçon de 25 ans. Il était maigre et long. La figure ébahie et ronde, encadrée de favoris taillés en côtelettes, lui donnait l'air d'un apprenti substitut. Son nez de chercheur, étroit et mince, était surmonté de lunettes bleues. Ses cheveux blonds sales disparaissaient habituellement sous un chapeau de feutre gris à large bord. Enfin, il était vêtu d'une longue houppelande de couleur indécise, poussiéreuse et couverte de taches, de laquelle émergeaient deux jambes maigres et deux pieds énormes, chaussés de souliers à clous. On ne pouvait le regarder sans rire. Passionné pour l'histoire naturelle, surtout pour l'entomologie, il avait installé dans un hangar en dehors de la ville toute une ménagerie d'insectes et de reptiles dont il étudiait les mœurs. Tous les jours, il arpentait la campagne à grandes enjambées, à la recherche de grenouilles et d'insectes dont il nourrissait ses pensionnaires. Il était très connu dans son quartier, et les commerces se plaisaient le soir, sur le seuil de leurs portes, à se rappeler ses bizarreries ou quelques-unes de ses distractions devenues légendaires. Il faisait le contraste le plus parfait avec son camarade de collège, l'ingénieur Goël Mordax. Celui-ci était à peu près de son âge. Petit et trapu, il avait de larges épaules. Sa figure énergique était encadrée d'une courte barbe noire. Le type de sa physionomie annonçait son origine bretonne. Sorti l'un des premiers de l'école polytechnique, il avait suivi les cours de l'école des mines. Son diplôme d'ingénieur obtenu, il avait refusé la brillante position que lui offrait la routine administrative et était entré à de maigres appointements au service d'une compagnie de transport. Sa modeste situation lui laissait des loisirs dont il profitait pour se livrer avec acharnement à l'étude des problèmes les plus ardus de la mécanique et de la chimie. Le journal, dont la lecture absorbait si fort l'attention du jeune ingénieur, portait en manchette. Sensationnel concours entre les ingénieurs du monde entier. Un milliardaire philanthrope. sous-marin gigantesque, un prix de 5 millions or. Jusqu'ici, disait le journal, les sous-marins n'ont été que de coûteux engins destinés surtout à la guerre. Malgré les magnifiques travaux des constructeurs du Narval, du Goubet, du Holland, du Gymnot et du Gustave Zédé, les mystérieux abîmes des océans demeuraient inaccessibles aux investigations des savants et des pêcheurs de trésors. L'audacieuse tentative d'un richissime Norvégien, M. Ursen Strum, va d'ici peu changer tout cela. D'ici quelques années, d'ici quelques mois peut-être, l'on pourra recueillir, sans péril et sans peine, les trésors perdus au fond des mers. Il sera facile d'engranger la riche moisson des productions sous-marines, les corbeaux arborescents, les ébronges, les nacres opalines, les blocs d'ambre gris et les perles. On pourra exploiter les riches gisements de houille, d'or, de fer et de nickel que recèlent les abîmes océaniques. Le travail des plongeurs qui succombent à l'asphyxie ou aux congestions et qui deviennent la proie des requins sera désormais sans danger. L'éponge, le corail, le byssus, l'huître perlière seront cultivés et mis en coupe comme les plantes de nos jardins. Toutes les sciences de la paléontologie à la zoologie réaliseront de gigantesques progrès. L'intelligence et le bien-être de l'homme se trouveront tout à coup doublés par la possession des royaumes subocéaniques. Léché par ce préambule, Goël Mordax continua. Monsieur Urselstrom, avec une sagacité vraiment géniale, s'est rendu compte de cette vérité simple, mais pourtant bien peu comprise, que la lenteur du progrès humain tient surtout à la dispersion de l'effort. Si chaque fois qu'il se présente en science un problème ardu, s'est-il dit, tous les hommes compétents du monde entier s'y attelaient, le problème serait sans doute rapidement résolu. Mais comment intéresser tous les savants à une même question ? La tâche eût été difficile pour tout autre que le milliardaire Sundström, car l'appât de l'énorme somme de 5 millions de francs or, offerte en prime à l'heureux vainqueur du concours, décidera les plus hésitants et éveillera toutes les convoitises. L'ingénieur, qui fournira le plan le plus parfait de sous-marin non militaire, capable de descendre aux plus grandes profondeurs, aura donc à toucher 5 millions de francs d'or, soit 1 million de dollars, soit 200 000 livres sterling. « Eh bien, mon bonhomme, que dis-tu de cela ?» demanda M. Lepic, qui, tout en baguenaudant par la chambre, avait trouvé le moyen de renverser un godet d'encre de Chine sur l'épreuve commencée par son ami. « Bon, je dis que tu es un fichu maladroit. »« Non, ce n'est pas cela que je te demande, » fit le naturaliste d'un air piteux. Je te parle du fameux concours de sous-marins. Oh, c'est tout simplement stupéfiant, mais de grâce, allez, laisse-moi dire tranquille. J'en suis aux conditions du concours que le journal reproduit in extenso. Monsieur Lepic ouvrit la fenêtre et se mit à siffloter en regardant dans la rue, pendant que Goël continuait à lire. Dans un but d'humanité, de civilisation, M. Ursenström ouvre donc à ses frais un concours pour l'élaboration d'un sous-marin d'une jauge d'au moins 800 tonneaux, d'une vitesse de 18 nœuds et d'une durée d'immersion aussi longue que possible. Toute latitude est laissée aux concurrents, ce qui concerne les mécanismes de direction, de plongée, d'éclairage, etc. Chaque concurrent devra faire parvenir à M. Ursenström une étude complète comprenant, premièrement, une note des vues d'ensemble du projet et des conditions qu'il devra réaliser, deuxièmement, un plan des formes du sous-marin, troisièmement, les diverses coupes définissant la charpente du vaisseau et permettant de le mettre à exécution, Quatrièmement, un devis des échantillons. Cinquièmement, des calculs de résistance établissant la déformabilité de la coque. Sixièmement, un devis des poids. Septièmement, un plan des aménagements. Huitièmement, des plans d'ensemble de l'appareil moteur appuyés du calcul des dimensions principales de cet appareil. Neuvièmement, des plans détaillés des appareils de dragage, d'extraction, etc. Et dixièmement, des plans détaillés des appareils spéciaux que l'inventeur pourra devoir proposer pour tel ou tel but particulier. Les plans d'ensemble à l'échelle de 0,05 m par mètre et les plans de détail au dixième. Les projets devront être adressés à M. Ursenström, à sa villa d'Églicine, à Marseille, dans le délai d'un an à partir de ce jour. Ils ne devront porter qu'une seule signature, même s'ils sont le résultat de la collaboration de plusieurs savants, et le prix ne pourra être partagé. Pour présenter toutes garanties aux concurrents, le jury sera choisi parmi les savants les plus illustres du monde entier. Ont déjà accepté d'en faire partie messieurs Edison, Claude Holland, Forêt, Romanzotti, etc., ainsi que quelques constructeurs et sportsmen tels que monsieur Ford, Breguet, Renault, Citroën, etc. Suivait un long éloge d'Ursenström qui se terminait par cette phrase. Nous croyons savoir que la générosité du philanthrope norvégien ne s'arrêtera pas là et que le vainqueur du concours pourrait bien, du même coup, toucher le prix de 5 millions et hériter plus tard de la fortune colossale d'Ursenström. On dit en effet que Mademoiselle Leda Ström, la fille du milliardaire, belle autant qu'originale, consentirait à épouser sans déplaisir le vainqueur de ce concours. « Eh bien, que penses-tu de cela ?» dit M. Lepic en voyant son ami replier le journal. « Bob, venant de tout autre, je pourrais croire que ce concours n'est qu'un formidable canard. Alors ?»« Ben alors, je vais concourir. Tout simplement, tu es content ?»« Mon Dieu, oui. » Eh, mon gaillard, les 5 millions te tentent, fit M. Lepic. Non, je trouve une occasion unique de voir mes plans soigneusement examinés, et j'en profite. Tant mieux pour moi si je réussis. Tout en parlant, le jeune ingénieur se promenait de long en large. Il était plus ému qu'il ne voulait le paraître. Alors, mon vieux, fit M. Lepic en reprenant son attirail de savant ambulant. Du calme, du calme. Allez, tiens, viens prendre un boc avec moi, cela te remettra. Les deux amis se rendirent sur la Canebière, orgueil et délice des Marseillais. La nuit tombait. Les cafés présentaient une animation extraordinaire. Tout le monde commentait avec de grands gestes et de grands éclats de voix le projet audacieux du Norvégien. Les crieurs de journaux encaissaient les recettes fantastiques. Les deux camarades s'assirent, se firent sortir, servir un boc, et feuilletèrent les journaux illustrés. « Tiens, regarde donc !» s'écria tout d'un coup Goel. « Reconnais-tu ce portrait ?» Monsieur Lepic ajusta ses lunettes. « Bon, jolie fille, » dit-il négligemment. « Mais cela ne te rappelle rien ?» fit Goel. Non, c'est-à-dire si, elle ressemble étrangement à la belle inconnue qui a failli nous écraser l'autre jour. Eh bien, c'est Mademoiselle Ström. Voilà qui est bizarre. Par conséquent, la future Madame Mordax, ajouta M. Lepic avec un grand sérieux, à moins qu'elle ne soit Lady Tony Frower, « mon cher Gaël, » dit soudain une voix à côté d'eux. Les deux amis se retournèrent. Ils se trouvèrent face à face avec un grand jeune homme vêtu d'un complet à carreaux verts et jaunes. Il portait en soudoir une jumelle dans un étui de maroquin. L'inconnu offrait le type le plus parfait du Yankee. Il ne portait pas de barbe, et la bouche, aux lèvres minces, était surmontée d'un nez fortement busqué. Les yeux enfoncés sous l'arcade sourcilière dénotaient une grande énergie. Il tendit franchement la main à Goël. « Eh bien, vous ne me reconnaissez pas ?»« Si, 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 mon cher Tony, » répondit Goël après un instant d'hésitation. « Mais je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Il y a bien 5 ans que je ne vous avais vu. Vous aviez disparu si soudainement que, ma foi, je vous avais cru mort. Oh, je suis au contraire, on ne peut plus vivant, très disposé à conquérir la main de la belle Elda Stroheim. Bien bonne chance, messieurs, s'écria Monsieur Lepic. En cette occasion, je suis heureux pour ma part de ne pas être ingénieur. Car une jeune fille qui s'adjuge au concours, merci. Je souhaite bien du bonheur à qui l'épousera, mais je crains bien qu'elle ne soit plus difficile à conduire qu'un torpilleur de haute mer. » Et M. Lepic se mit à rire à gorge déployée de cette plaisanterie qu'il jugeait excellente. Goël Mordax allait prendre la défense de la jeune fille quand un consommateur qui avait entendu les dernières paroles du naturaliste se leva et se rapprocha des 3 jeunes gens. Une abondante chevelure noire et frisée s'échappait de dessous son feutre à longs poils. Ses moustaches, longues et brunes, étaient soigneusement cosmétiquées. Il était sanglé dans une redingote du meilleur faiseur et sa boutonnière était ornée d'une rosette multicolore à prétention de rosace où les ordres étrangers les plus disparates se côtoyaient dans une touchante fraternité. Il salua les 3 jeunes gens d'un brusque coup de chapeau et s'adressant à M. Lepic, « Monsieur, » dit-il d'une voix claironnante qui trahit immédiatement les origines bien marseillaises du nouveau venu, « vous parlez plus que légèrement de Mademoiselle Elda Stroheim. Je ne saurais tolérer plus longtemps cet irrévérencieux langage. » M. Lepic demeurait confus. « Oh, 1000 pardons, monsieur, » interrompit ironiquement Tony Fowler. « À qui avons-nous l'honneur de parler ?»« Au célèbre Marius Coquardo, dit Cantalou, » répondit l'autre en se rengorgeant. « Votre célébrité doit être bien limitée, » reprit le Yankee goguenard. « C'est la première fois que j'entends prononcer votre nom. » Un flot de sang monta aux joues du Marseillais. Il paraissait stupéfait de l'audace et de l'ignorance de son interlocuteur. « Vous n'avez jamais entendu parler de moi ? » s'écria-t-il enfin. « De moi, le célèbre Cantalou, connu dans tout le télécours de l'Europe ? De moi qui me fait gloire d'être l'ami des plus graves souverains ? Mais d'où sortez-vous ? Il n'en est personne ici qui ne rende hommage à ma gloire. » Et d'un geste large, il embrassa la salle entière du café. Mais le geste avait tant d'ampleur, tant de majesté, qu'il semblait englober la terre entière et une bonne partie des astres environnants. Tous les consommateurs souriaient. Coquardo était en effet très populaire à Marseille, sa ville natale. « Mais cela ne m'apprend rien, » ricana Tony Fowler. « Eh bien, voici qui vous l'apprendra. » Et Coquardo tira d'un porte-carte en cuir de Russie un Bristol entièrement doré, portant cet extraordinaire libellé. Marius Coquardo dit Cantalou, artiste culinaire, officier de l'instruction publique, décoré de nombreux ordres étrangers, membre de l'Académie nationale de cuisine, ex-officier du service de la bouche de leur majesté les empereurs et rois d'Angleterre, de Portugal et d'Italie, maître d'hôtel particulier de Monsieur Sandström, villa des Glycines, Marseille, Bouches-du-Rhône. L'Américain s'esclaffa. Ah, vous êtes cuisinier? Fit Monsieur Lepic d'un air goguenard. Cuisinier, cuisinier, claironna Cantalou en levant les bras au ciel. Artiste culinaire, monsieur. Auteur d'une traduction du De Re Quoquinaria d'Alpicius, commentateur des œuvres de Marie-Antoine Carême et de Grimaud de la Reynière, descendant par les femmes de l'illustre Vatel. Et vous osez m'appeler cuisinier ? C'est bon, répondit Monsieur Lepic. Je sais qui vous êtes et vous faites toutes mes excuses. Voulez-vous me donner la main ? « Non, monsieur, répliqua dignement Coquardeau Cantalou, pas avant que vous m'ayez retiré les paroles blessantes pour l'horreur de mademoiselle Edda Ström que vous avez prononcées tout à l'heure. »« Bon, eh bien, je les retire. Êtes-vous satisfait maintenant ? Vous avez bien fait. Sans cela, vous ne saviez pas à quoi vous vous exposiez. » Les sourcils froncés, Cantalou se retira majestueusement après avoir salué les trois amis. Cependant, la nuit était venue, les globes électriques étincelaient. Goël Mordax et Monsieur Lepic se séparèrent de l'Américain après une cordiale poignée de main. « Crois-tu que Tony Fowler ait les chances de remporter le prix ?» demanda Monsieur Lepic à Goël. « Oh, pourquoi pas, il a fait de solides études. »« Est-ce un bon camarade ?» ajouta timidement M. Lepic. « Mais oui, certainement, » fit Goël avec un moment d'hésitation. Ben, « je ne sais pas, mais il m'a fait mauvaise impression. Oh, je le croirais facilement jaloux de toi. » Goël haussa les épaules. Les deux amis continuèrent à marcher, absorbés dans leurs pensées. « Oh, sapristi !» s'écria tout à coup le naturaliste. « J'ai laissé une couleuvre à la consigne. Allons la chercher !» Les deux amis se rendirent à la gare où le reptile fut délivré. Ils revenaient sur leur pas quand ils furent croisés par une automobile filant à toute allure. Au bruit qu'elle faisait, les deux jeunes gens relevèrent la tête et ils reconnurent dans le véhicule, à la lueur du fanal électrique, la fine silhouette d'Elda Ström, la blonde inconnue qui, une fois déjà, avait failli les écraser. Elle leur apparut alors comme la vivante incarnation de la science moderne, la muse des temps futurs.